السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام، وبعد. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا علما نافعا، ويرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لقيام رمضان وصيامه إيمانا واحتسابا. ما زلنا في قراءة كتاب عمدة الأحكام للعلامة الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، كتاب الصيام. ويوم السبت، نعم، آخر ما قرأنا حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أخرجه أبو داود، وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله. Nous sommes arrêtés samedi sur le hadith de Aïcha رضي الله عنها, dans lequel elle nous rapporte que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui meurt alors qu'il est redevable d'un jeûne, son proche jeûnera à sa place. Et nous avions dit que beaucoup de savants ont pour avis que le jeûne qui est voulu ici, c'est Siyam al-Nadhr, c'est celui qui a fait un vœu, qui s'est engagé à jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala des jours. Quant aux autres jeûnes, qu'ils soient obligatoires ou non, nous n'avons pas l'obligation, ni on nous appelle à les rattraper pour le défunt. Ceci est l'avis de certaines personnes de science. Wa an Abdillah bin Abbas radiallahu anhuma qal, رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أريت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. Ce hadith est le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, dans lequel il nous dit: un homme vint demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, ma mère est décédée, mais elle était redevable du jeûne d'un mois, puis-je m'en acquitter pour elle? Il demanda: si ta mère avait une dette, la réglerais-tu pour elle? Certainement, répondit l'homme. La dette d'Allah est plus en droit d'être acquittée, conclut le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans une autre version, une femme vint dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, ma mère est décédée, mais elle reste redevable d'un jeûne suite à un vœu prononcé. Puis-je m'en acquitter pour elle? Il demanda: vois-tu, si ta mère avait une dette que tu réglerais, cela acquitterait-il sa dette? Oui, répondit-elle. Alors jeûne pour ta mère, ordonna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, l'auteur, rahimahullahu ta'ala, cite ce hadith après avoir cité le hadith précédent de Aïcha radiallahu anha, pour nous montrer de quel jeûne obligatoire il s'agit. De quel jeûne obligatoire il s'agit. S'il y a un décès et qu'une personne est redevable d'un jour de jeûne obligatoire, na'am, son proche devra le jeûner pour elle. De quel jeûne s'agit-il? L'auteur a cité le hadith de Abdullah ibn Abbas pour montrer et démontrer que le jeûne en question ici, c'est le jeûne de an-nadhr, du serment, na'am, du vœu prononcé. C'est-à-dire que la personne se rend obligatoire as-siyam. La personne se rend obligatoire as-siyam. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma nous cite ici qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on nous dit que cet homme-là c'était Sa'd ibn Ubadah Sayyid al-Khazraj. Sa'd ibn Ubadah, c'est un des meilleurs parmi les sahaba radiallahu anhu et c'est un des chefs d'une des tribus de l'Ansar. C'est un des chefs d'une des tribus chez Al-Ansar. موضوع الحديث حكم قضاء صوم النذر عن الميت. Le sujet du hadith est le jugement de rattraper le jeûne d'une personne décédée qui est redevable d'un jeûne nadr, d'un jeûne qui est dû au nadr. Dans le hadith, il nous dit qu'elle est redevable du jeûne d'un mois. Elle est redevable du jeûne d'un mois. هنا أطلق ولم يقول رمضان أو كفارة أو ما أشبه ذلك. Ici, on nous dit le jeûne d'un mois sans nous préciser de quel type de jeûne il s'agit. إلا أن العلماء, si ce n'est que les savants ont dit qu'il s'agit du nadr. Si ce n'est que les savants ont dit, il s'agit du nadr, du vœu. Pourquoi cela? Pour plusieurs causes. Premièrement, si ça avait été le jeûne de Ramadan, il aurait dit Ramadan. Si ça avait été le jeûne de Ramadan, le sahabi aurait dit directement le mois de Ramadan. Deuxièmement, si ça avait été un siyam de kafara, une expiation, na'am, il n'y a pas un mois dans l'expiation. Na'am, il aurait, yani, il, le terme du, les termes du hadith auraient été shahrayn. Na'am, elle a deux mois à rattraper. Ou bien 10 jours. Na'am, dans certains cas au hajj. Mais un mois pour al-kafara, on ne trouve pas cela. Il y a 2 mois, il y a 10 jours. Na'am. Ou bien la personne dans le cas où elle a juré, ça peut être 3 jours. Par contre, un mois, ça n'est pas Ramadan ici, car le mois de Ramadan n'a pas été cité. Ça n'est pas le kafara, car le nombre de jours n'est pas en adéquation. Il reste quoi? Il reste al-nadr. Il reste al-nadr. Une autre raison qui ont poussé les savants à dire cela, c'est que la seconde version, dans la seconde version, on cite de manière explicite al-nadr, le serment, le vœu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui répondre, lui a cité une image qui parle d'elle-même, en disant لو كان على أمك دين, si ta mère avait une dette, أكنت قاضيه عنها, est-ce que tu l'aurais remboursé à sa place? قال نعم. Sahabi a répondu certes, oui, j'aurais remboursé ses dettes. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit daynullahi ahaqqu an yuqda. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu la dette d'Allah est plus en droit d'être acquittée. Fihi istihbab qada'i duyun al-mayyit. On tire de ce hadith le caractère recommandé du remboursement des dettes de la personne qui décède. Ça, c'est un des points les plus importants. Lorsque la personne décède, il faut demander est-ce qu'elle avait des dettes. Car le fait de décéder avec des dettes, c'est très très grave en islam. Surtout celui qui est décédé avec laxisme dans ce sujet. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait les causes, n'a pas fait les efforts pour retrouver ceux qui lui ont prêté ou pour avoir la somme nécessaire pour rembourser, ou il n'a pas orienté vers ceux qui pourront rembourser après son décès. Dans le cas où je décède et que j'ai des dettes et qu'il n'y a pas assez dans mes biens, rendez-vous auprès de telle et telle personne, eux rembourseront mes dettes. Ou bien il n'a pas informé ses proches de ses dettes. Ceci est très très grave. À un point tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y avait une salat jenaza, il demandait, est-ce que la personne a des dettes? Si on lui disait oui, il disait, qui est-ce qui va rembourser ses dettes? Si personne ne les remboursait, il ne priait pas sur le mort. Il disait, priez sur votre défunt. Subhanallah. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui avait le plus de rahma envers sa communauté. Malgré ça, ici, il nous montre la gravité de cette action. Naam, et bien entendu, c'est pour celui qui n'a pas eu le choix. Il a fait cela par laxisme. Il s'est retrouvé dans cette situation par laxisme. Et certains savants ont dit, c'est plutôt obligatoire de rembourser les dettes de ses proches. C'est plutôt obligatoire de rembourser les dettes de ses proches. Mais en réalité, on trouve dans les règles de la législation musulmane que chacun est responsable de ses actions. Donc c'est recommandé. C'est recommandé. Il y a une mas'ala qui est prise de ce hadith et de beaucoup d'autres que les savants citent et détaillent. C'est muzahamatu huquqillah ma'a huquqil adamiyyin. C'est lorsqu'il y a le droit d'Allah d'un côté et il y a le droit des serviteurs d'Allah de l'autre. Naam. Et qu'on se retrouve dans une situation où on doit, où on peut faire qu'une seule chose parmi les deux. On peut faire qu'une seule chose parmi les deux. Un exemple. Quelqu'un décède et il laisse une somme d'argent. Il est redevable de la zakat, mais il a aussi une dette. Donc ça, c'est le droit d'Allah. C'est le droit d'Allah. Mais il a aussi une dette auprès d'une personne. On va utiliser l'argent pour faire quoi? Est-ce qu'on va répondre au droit d'Allah Azza wa Jal? Naam. Ou bien est-ce qu'on va répondre au droit de la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ça, c'est une divergence entre les ulama. Certains disent, on fait devancer le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve, c'est ce hadith. Fadaynullah ahaqqu an yuqda. Le droit d'Allah, ou la dette qu'on a envers Allah, est plus à même d'être acquitté. D'autres ont dit, le droit de la créature sera réglé en premier. La dette de la créature sera réglée en premier. Pourquoi? Car la relation avec Allah, elle est basée sur le tasamuh, sur le pardon, sur la rahma, sur la miséricorde. Allahu Akbar. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il excuse ses serviteurs, il pardonne à ses serviteurs. Il donne avec largesse à ses serviteurs. Il est rahim, raouf. Alors que les droits entre les serviteurs d'Allah, c'est basé sur l'avarice. Hein? C'est basé sur quoi? C'est basé sur l'avarice. Chacun veut son haqq kamil. Hein? Chacun pense à sa personne. Chacun veut son haqq. Chacun ne veut pas laisser son haqq. Donc ils ont dit, on va faire prévaloir le droit d'Ibn Adam, parce que les droits avec lui sont basés sur l'avarice. Naam. Mabni ala al-mushaha. Alors que le huquq avec Allah mabni ala al-tasamuh. Donc dans ce cas de figure, on fera devancer le droit de la créature. D'autres ont dit non. Le droit d'Allah Azza wa Jal, car le prophète sallam ici nous dit fadaynullahi ahaqqu an yuqda. Chez beaucoup de savants, ils disent il n'y a pas de règle absolue. C'est du cas par cas. Naam, c'est du cas par cas. On regarde madha, la situation. On regarde la situation. Dans la seconde version du hadith, Jat imra'atun. C'est une femme qui est venue. Et cela a mené une divergence chez les savants. Est-ce que la deuxième version du hadith, est-ce que c'est la même histoire? Ou bien c'est une autre histoire? Certains ont dit c'est la même histoire. Et la preuve est que Abdullah ibn Abbas est le même rapporteur. La première question et la seconde, c'est Abdullah ibn Abbas qui la raconte. Et les termes sont très proches. D'autres ont dit non. Ce n'est pas la même histoire, car rien n'oblige cela. Et deuxièmement, dans la seconde histoire, c'est une femme. Dans la seconde histoire, c'est une femme. Quoi qu'il en soit, ça ne change pas grandement le jugement et la règle du mutlaq et du muqayyad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné et il a répondu avec ce qu'on appelle al-qiyas. Il a cité un exemple matérialisé ou représenté qui allait nous faire comprendre et nous amener à un jugement religieux, en prenant un cas dont le jugement est connu pour arriver à un résultat sur un cas dont le jugement n'est pas connu. Du fait qu'ils aient un lien commun. Du fait qu'ils aient un lien commun. Ça, c'est ce qu'on appelle al-qiyas. Naam. C'est ilhaqu far'in bi aslin li'illatin jami'atin baynahuma. Ça, c'est ce qu'on appelle al-qiyas. Falamma su'ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ajaba bi hadhihi ad-dilala. فقاس حق الله سبحانه وتعالى وديني على حق الآدمي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une analogie entre le droit d'Allah azza wa jal et les dettes des serviteurs envers lui avec le droit de ses créatures. Donc les savants ont dit que al-qiyas, l'analogie, أحد الدلائل الموصلة إلى الأحكام الشرعية. On tire de ce hadith et de beaucoup d'autres que le qiyas est une des méthodes permettant d'atteindre un jugement religieux. D'atteindre un jugement religieux. نستفيد من هذا الحديث حرص الصحابة على العلم ليعبدوا الله عز وجل على بصيرة. On tire de ce hadith la motivation des compagnons dans la recherche de la science afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance. Et cette cause est très importante. Pourquoi est-ce que tu étudies? Pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala avec clairvoyance. L'étude de la science est une adoration en soi. Mais toi, tu étudies pour adorer Allah. Tu étudies pour te rapprocher d'Allah. Tu étudies pour avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. On tire de ce hadith جواز قضاء الصوم الواجب عن الميت. طيب او على الميت. On tire de ce hadith la permission de rattraper un jeûne obligatoire pour un mort. Et on a vu que certains savants ont dit c'est siyam ou nadr. C'est particulièrement un nadr, le vœu. نستفيد من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. On tire de ce hadith le bel enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la noble pédagogie du prophète alayhi salatu wa sallam dans la transmission du savoir, du fait qu'il a utilisé cette image, il a utilisé cette analogie pour faire comprendre aux sahabi la réponse et que cette chose se matérialise dans ses pensées, se dessine dans ses pensées. Et on trouve cela dans le Coran, darbul amthal. Naam, on trouve darbul amthal dans le Coran, le fait de citer des paraboles pour passer d'une chose qui est abstraite à une chose qui est concrète afin qu'elle s'ancre dans le aql de la personne et qu'elle soit clairvoyante dans cela. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous montre que les du'as et les adorations des associateurs ne montent pas vers lui, ne sont pas acceptées chez lui. Naam, car elles ne sont pas sincères ni en conformité, elles manquent des conditions. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous cite en parabole un homme qui met ses mains dans de l'eau, il veut boire, mais ses mains sont, ses doigts sont écartés. Il rentre ses mains dans l'eau et il les ressort. Qu'est-ce qui lui parviendra? Rien. De la même façon, celui qui adore Allah azza wa jal avec un shirk, il n'y a rien qui monte chez Allah, il n'y a rien qui est accepté chez Allah. Mais toi, si on te dit la phrase directement, peut-être qu'elle, tu la comprends et tu passes. Alors que, en te matérialisant cela, tu as ce dessin en tête maintenant. Donc ça t'amène au jugement religieux, ça reste ancré. Ça reste ancré de par cette éloquence, cette méthode de cette pédagogie,
ça reste ancré.
Un autre exemple dans le Coran. A'maluhum kasarabin biqi'a yahsabu adh-dham'anu ma.
On nous cite l'exemple de leurs actions à l'exemple d'un mirage. Vous savez ce qu'est un mirage dans le désert, tu marches et au loin tu penses apercevoir une source d'eau. Et lorsque tu arrives, tu ne trouves rien, tu trouves que du sable. Ben, on nous cite en parabole l'action de celui qui n'a pas l'ikhlas.
Naam.
Ou bien, Mada, on nous cite en exemple des actions, pareillement, les mêmes actions, sur les yani, qui sont telles de la cendre. Et il y a un grand vent qui vient taper les cendres. Qu'en restera-t-il? Tous ces paraboles nous sont données pour nous montrer le droit d'Allah Azza wa Jalla et nous montrer la gravité et la bêtise du shirk et le fait que la personne agit et elle ne trouve rien demain et elle s'est fatiguée pour rien, pas pour rien, pour le mal, et la rétribution sera très sévère. Et les paraboles sont très nombreuses en Coran, et l'Allama Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala na'am a beaucoup écrit dans cela et a expliqué les paraboles. Elles sont nombreuses dans le Coran. Naam, elles sont nombreuses dans le Coran, en commençant par le début de Surat al-Baqarah. Naam, en commençant par le début de Surat al-Baqarah, au début de la troisième page. Naam. On tire également de ce hadith أن من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثال المحسوسة التي يعقل بها المعنى أو يعقل بها المعنى وتنجلي بها الأحكام. نستفيد من هذا الحديث أيضا أن القياس دليل شرعي تثبت به الأحكام. تير de ce hadith que le qiyas c'est une preuve religieuse par laquelle on affirme les jugements dans l'islam. جواز قضاء دين الآدمي عن الميت. La permission de rattraper des jours de jeûne pour une personne qui est décédée sous conditions précédemment explicitées. Le hadith suivant, عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. Ce hadith également est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. C'est le hadith de Sahl ibn Sa'd al-Sa'id, dans lequel il nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils se presseront dans la rupture du jeûne, tant qu'ils se dépêcheront de rompre le jeûne. Une fois le maghrib arrivé, une fois le coucher du soleil avéré, na'am, ils hâteront la rupture du jeûne. Le prophète sallam dit, les gens de ma communauté, les jeûneurs, ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils se comporteront ainsi. Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiallahu anhu est un des jeunes compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est décédé, il n'avait que 15 ans. C'est un Ansari. Il fait partie des Ansar. Parmi ses particularités, le fait que le prophète sallam rayyara asmahu, le prophète sallam a changé son prénom. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé le prénom de certains parmi les sahaba, hommes et femmes. Parmi eux, Sahl. Quel était son prénom? Quel était le prénom de Sahl? Naam. C'était Hazn. Naam. Sa'ab. C'était la difficulté. Il s'appelait en arabe difficulté. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل انت سهل. Prophète a dit non, tu es plutôt la facilité. Naam, il a modifié son prénom. Naam, il a modifié son prénom. Et il a modifié le prénom de certains parmi les sahaba lorsqu'il y avait une mauvaise mada, un mauvais sens ou un sens péjoratif. Naam, et un parmi eux avait un prénom de la sorte. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de le changer, il a dit jamais je vais changer un prénom que mon père m'a donné. Puis il a regretté. Il a dit la difficulté n'a cessé d'être dans ma famille génération après génération. Parce qu'il a refusé de faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit. Donc, lorsque la personne a un prénom où il y a une mauvaise notion, ou un sens péjoratif, il convient de le changer. Naam, il convient de le changer. Par contre, celui qui se convertit à l'islam, si son nom n'a pas de sens blâmable, il n'a pas l'obligation de le changer. C'est une bonne chose, certes, mais il n'a pas l'obligation de le changer. Naam. Parmi ses particularités, le fait qu'il a vécu très longtemps. Et c'est le dernier sahabi qui est décédé à Médine. Lorsqu'il est décédé, il ne restait plus de sahaba vivant à Médine. Naam, selon l'avis de certains min ahl al-hadith. C'est-à-dire que c'est celui qui a vécu le plus longtemps parmi les sahaba. C'était le dernier vivant avec al-tabi'in, avec al-tabi'un al-Madina. Quand il est décédé, naam, il n'y avait plus de sahaba. Et d'autres ont dit c'est autre que lui, radiyallahu anhu. موضوع الحديث حكم تعجيل الفطر. Le sujet du hadith est le jugement de s'empresser de rompre le jeûne. Bien évidemment, une fois la permission connue, yani le coucher du soleil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: La yazalu nasu bi khayr. Les gens ne cesseront d'être dans le bien. Al khayri yahuna bi'tibar at-tamassuk bi sunnati al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. فهو قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا وسيدنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم. Le bien ici auquel fait référence le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit ma communauté ne cessera d'être dans le bien, c'est-à-dire le bien de par le fait qu'il se soit accroché à sa sunna, à la tradition prophétique, du fait que c'est notre exemple. C'est l'envoyé d'Allah, celui qui nous a été envoyé pour nous apprendre comment nous rapprocher d'Allah et entrer au paradis. Comment être sauvé du châtiment, de la colère, de l'enfer, wa hakala. Car il nous a été envoyé en tant qu'exemple. Il nous a été envoyé en tant qu'exemple. Donc tant qu'ils vont prendre soin et accorder de l'importance à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils seront dans le bien. Ils seront dans le bien. Naam. À l'inverse, si des gens ne respectent pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et font prévaloir leurs passions et leurs envies sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le dîn d'Allah jalla wa ala, et suivent les passions ou bien les bid'ah, à ce moment-là, ils ne seront pas dans le bien, ils seront dans le char, ils seront dans le mal. Fal khayr kullu al khayr fi tamassuk bi sunnah. Le bien tout entier réside dans le fait de s'accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit dans le Coran: "Ittabi'u ma unzila ilaykum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya." Suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur. C'est-à-dire le Coran et la sunna. Allah nous dit: "Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ce que le message d'Allah vous donne, prenez-le, ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Na'am. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Vous avez un parfait exemple à suivre la personne du messager d'Allah. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Donc ça doit être une base chez toi. وهذا من حق شهادة أن محمد رسول الله. Et ça fait partie des droits du témoignage que Mohammed est le messager d'Allah. طاعته فيما أمر. طاعته فيما أمر. نعم. On doit lui obéir dans tout ce qu'il nous a commandé et adorer Allah qu'avec ce qu'il nous a montré et enseigné. Deuxièmement, le bien réside dans le fait de se distinguer et se différencier des gens des passions et de l'innovation. Pourquoi cela ? Fi idharun li mukhalafati ahli al-ahwa wal bid'ah wal batil. Limada ? لأن بعض فرق الضالة يتعمدون تأخير الفطر إلى ظهور النجوم. نعم. ويتعمدون مخالفة العامة تدينا نعم وتنطعا في دين الله عز وجل. Deuxièmement, il y a un grand bien dans cela du fait que en t'empressant de rompre ton jeûne, tu te seras distingué des gens du faux et des gens de l'innovation et de ceux qui font des excès de zèle dans la religion d'Allah Azza wa Jal et qui exagèrent en pensant se rapprocher d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et volontairement, ils disent que ça, c'est la religion des gens de la masse et nous, on se distingue, on fait différemment des gens de la communauté. Donc, ces personnes de l'innovation qui ont ajouté des choses dans la religion d'Allah Azza wa Jal, chez eux, la religion et l'élévation résident dans le fait de retarder le fait jusqu'au moment où les étoiles sortent et apparaissent. Alors que le prophète sallam, une fois le maghrib venu, il rompait le jeûne et il a encouragé sahaba à s'empresser, à faire vite. Dès que c'est le maghrib, tu te dépêches, tu marches en chemin, tu vois le soleil et tu ne vois plus le rond, il se couche, dépêche-toi de rompre ton jeûne. Attends même pas d'arriver au masjid ou quoi, dès que tu es sûr, tu romps ton jeûne. Après avoir été sûr. Parce qu'il se peut qu'il y ait un nuage, par exemple. Il se peut qu'il y ait un nuage, na'am, ou autre. Et il se peut que les gens prennent leurs précautions, ils retardent de 2 minutes, par exemple. Toi, une fois que tu as vu le signe de manière claire, comme on le verra dans le hadith suivant, tu te presses de rompre ton jeûne. Dis pas, moi, je suis plus fort, j'attends un peu. Non. Le meilleur, c'est celui qui rompt le plus vite. Au point où les savants ont dit, le mot adhin, est-ce qu'il fait, il rompt le jeûne, puis il fait l'adhan? Ou bien il fait l'adhan, ensuite il fait il rompt le jeûne. Alors qu'il n'y a que quelques secondes. Non. Mais ils ont débattu pour voir c'est quoi le meilleur. Parce que dans l'islam, on t'appelle toujours au meilleur. On t'appelle toujours à avoir les plus hauts degrés fil jannah, pour ton bien. Quant à Allah, il n'a pas besoin de nous, de nos actions. Mais nous, on a besoin d'Allah Azza wa Jal et on a besoin de hasanat pour le pardon de nos péchés, pour entrer fil jannah, pour être élevé fil jannah, pour obtenir le bien dans ce bas monde, dans notre tombe, dans l'au-delà. Wa billahi tawfiq. On tire de ce hadith également, il y a le bien également dans le fait de obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants, c'était encore d'autres paroles comme quoi la communauté ne cessera d'être dans le bien. Fihi ibahatu ta'khirul fitr. On tire également de ce hadith la permission de retarder la rupture du jeûne. La permission de retarder la rupture du jeûne. C'est pas haram de retarder la rupture du jeûne. Mais c'est mustahab d'hâter la rupture du jeûne. Et il n'y a pas de corrélation absolue, de lien direct, entre le fait de dire qu'une chose elle est mustahab et que son contraire est makruh, détestable. C'est pas forcément le cas. C'est pas parce qu'une chose elle est recommandée que son contraire est détestable. Pas parce qu'une chose est recommandée que son contraire est détestable. La chose peut être recommandée et son contraire permet. Et son contraire permet. Naam. Donc de retarder le fitr, c'est tout simplement permis. D'accord? C'est tout simplement permis. Pourquoi? Parce que le Prophète sallam kana yuwasi. Parce que le Prophète sallam faisait le wissal. Et lorsque sahaba ont voulu faire le wissal, il leur a dit, celui qui veut le faire, il le fait jusque... Mais il le fait, mais avant le fait, il prend quelque chose. Parce qu'il y a deux types de wissal, comme on le verra dans les prochains hadiths, incha'Allah ta'ala. فَلَا تَلَازُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْفِعْلَ مُسْتَحَبًّا وَأَنْ يَكُونَ تَرْكُهُ مَكْرُوهًا. On tire de ce hadith le blâme du waswas, des insufflations sataniques. Hein? Le fait de prendre des précautions démesurées. Certaines personnes prennent des précautions qui sont démesurées. Par exemple, le Fajr va être environ à 3h40. Elle dit, moi j'arrête de manger à 3h. On lui dit pourquoi? Il dit par précaution. Comme ça je suis sûr que je ne suis pas rentré dans le Fajr. Ça c'est de l'exagération dans le dé. 40 minutes en avance, c'est de l'exagération. C'est pas l'ihtiyat qui est recherché dans la religion. Naam. Quelques minutes, mathalan. Ah ben, une heure avant, il dit par précaution. Voyez. Ou bien, il fait le wudu Et il a, de peur que l'eau ne touche pas le talon, il remonte l'eau jusqu'au genou. Il remonte l'eau jusqu'au genou. Na'am. Ou bien, il fait ses besoins, karamakumullah, et ensuite, il utilise, par exemple, 5 litres d'eau. Il dit, c'est pour être sûr que l'istinja a bien été fait. Ensuite, il met tous ses vêtements au sale. Je dis, pourquoi? Il dit, pour être sûr qu'il n'y a pas eu une goutte d'urine. On dit, si tu sais qu'une goutte a touché, il te suffit de mettre de l'eau. Subhanallah. Il dit, oui, mais j'ai peur qu'il y ait du madi. Il te suffit de faire rush. Il suffit d'humidifier le vêtement. Le vêtement est tahi. Na'am, est pur. Donc ça, c'est du waswas. Et ça, c'est haram en islam. Et ça fait partie de ittiba' khutwat al-shaytan. Ça fait partie du suivi des pas du shaytan qu'Allah nous a interdit dans le Coran, dans surat Nour et dans d'autres. Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutwat al-shaytan. Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du shaytan. Na'am, par cette porte, en apparence de bien, le shaytan les fait tomber dans le haram. Na'am. La personne, elle est dans salat. Elle est venue jusqu'au masjid. Elle est sortie de chez elle à 13h30. Elle a fini salat, elle est rentrée chez elle, puis elle dit, je ne sais pas si j'ai mis l'intention du zahr. Allahu Akbar. Yani, est-ce qu'à 14h, tu as pu prier quelque chose si c'est le zahr? Est-ce qu'à 14h, on peut prier le maghrib? Hada min ittiba', yani, khutwat al-shaytan. Naam. Ça fait partie du suivi du shaytan et de ses pas. Naam. Certaines personnes restent aux toilettes pendant 2 heures. Naam. Elle fait ses besoins en 5 minutes, puis elle reste 1h30, 1h40, 2 heures. Pourquoi? Pour la purification, par peur qu'il y ait une... Ça, c'est du waswas, c'est haram. Ça, c'est haram. Allah Azza wa Jal veut pour toi la facilité de ta légiférer. Il t'a tout enseigné. S'il y a une impureté, comment la nettoyer? Si c'est de l'urine, comment la nettoyer? Si c'est le mavi, comment nettoyer? Si c'est l'oadi, comment nettoyer? Et tout cela est très simple. Tout cela est très simple. Et ne prend que quelques secondes. Si c'est un chien qui a lapé le plat, comment le laver? Na'am. À combien de reprises? Et mettre du sable ensuite, ou bien mon avrefat, ainsi de suite. Donc, elle waswas, c'est haram. La personne se dispute avec son épouse, puis lui dit, je te parle plus. Ensuite, il appelle 10 savants, puis 10 imams. Est-ce qu'elle est divorcée? Est-ce que ça compte comme un divorce? On lui pose la question, est-ce que tu as divorcé ton épouse? Il dit non. Mais pourquoi tu poses la question là? Oui, mais je lui ai dit, je te parle plus. Oui, mais je lui ai dit, je te dépose chez tes parents. Oui, mais j'ai pensé pendant une seconde que, subhanallah, c'est pas un divorce. Il te dit, barakallahu fi. Ensuite, il rappelle un autre. Ensuite, il rappelle un autre. Ensuite, il rappelle un autre. Comme s'il attendait qu'on lui dise oui. Et si quelqu'un lui dit oui, il pleure et il cherche une solution ensuite. Subhanallah, tu veux oui ou tu veux non? Hada min waswasati shaytan. Et Allah Azza wa Jal nous a ordonné de nous prémunir de shaytan et de waswas. Hein? Al-khannas. Donc il ne faut pas, il faut mettre fin à tout ça. Tu dis A'udhu billahi mina shaytan ar-rajim et tu passes et tu t'occupes dans le khayr. Et tu ne suis pas et tu ne questionnes pas sur ça, tu dépasses ça et tu n'y penses pas, tu ne questionnes pas et tu ne nourris pas le waswas. Le remède du waswas, les savants disent tarko. Le fait de le délaisser, de ne pas en parler, de ne pas le nourrir. De ne pas le nourrir. Plus tu en parles, plus tu y penses, plus tu questionnes, plus tu vas nourrir. Naam, plus tu vas donner de la matière à ce waswas et tu vas faire grossir le waswas. Naam. Sacrifie le waswas, divorce-le 3 fois. Naam, divorce-le 3 fois. Éloigne-t'en totalement. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a écrit un livre qui s'appelle Ighathatul Lahfan. Naam, sur tout ce qui coûte. Comment y aller se délier de tout ce qui est entrepris par Shaitan pour nous faire du mal. Donc ça, c'est un sujet qui est très important. Naam, Ibn Qudama a écrit un livre qui s'appelle Dhammul Waswasa. Il y a une conférence de notre frère Abda'i Asad Akwafakahullah sur le site La Voix Droite, le remède au waswas, et il a pris cette risala, il l'a traduite et Mazal l'a développée avec la parole d'Ahl al-Ilm. Et elle est très bénéfique. Na'am, nafa'allahu bihi al-umma. Nastafidu min hadha al-hadith anna al-khayra kullah. Le bien tout entier
réside dans le fait de rester dans les limites du shara, du din.
Certaines personnes, lorsqu'elles se disputent ou divergent, na'am, pensent que celui qui aura raison, c'est celui qui va parler le plus fort. Ou celui qui aura le plus de monde derrière lui. Ou celui qui est le plus... Yani qui est le plus fort. Ou kada ou... Non. C'est celui qui vient avec... Qala Allah, qala Rasulullah, qala Sahaba. Na'am. Ce qui est en conformité avec ça, c'est celui qui est sur le haq, même s'il est tout seul.
Et certaines personnes, lorsque ça ne convient pas à leur passion, ou bien lorsqu'il y a une lourdeur pour elles, elles délaissent Qala Allah, qala Rasulullah et utilisent la raison.
Utilise la raison.
Regarde lorsque Nuh alayhi salam a dit à son fils, Irkab ma'ana, monte avec nous sur l'arche. Son fils a dit ça, ah oui, il a le jabal. Son fils a dit, je vais monter sur le plus haut, sur la montagne. Hein? Lui, il a utilisé son aql. Il y aura de l'eau, je vais monter sur le mont, c'est élevé, donc je serai préservé. Là, c'est mal yo. Personne ne sera sauvé aujourd'hui. Allah azza wa jalla a décrété cela, c'est une chose inéluctable. Il faut suivre les textes et pas faire prévaloir la raison sur les textes. Et l'aql salim la yukhalif al-shara. Et la raison saine, de toute façon, elle ne contredit pas les textes. Il faut lister l'islam. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qala Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Il n'appartient pas à un croyant ni une croyante. Une fois qu'Allah et son message ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Na'am.
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بين ما يقول سمعنا وطعنا.
La seule parole des croyants lorsqu'on les appelle à Allah et son messager pour juger entre eux est de dire nous avons entendu, nous obéissons.
Par contre, les munafiqun, c'est tout le contraire. Quand le droit va être pour eux, prononçant leur faveur, ils viennent avec ça. Et dans le cas contraire, ils cherchent autre chose. Ils cherchent autre chose. Le croyant, il revient vers Allah et son messager, même si ça n'est pas en apparence à son avantage. Que ce soit en sa faveur ou non, il revient au texte. Si c'est pour lui, il dit Alhamdulillah. Et si c'est pas pour lui, il dit Sam'an wa ta'a. Il se soumet à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, car il sait que la justice est tout le bien. Et l'excellence réside dans cela.
Targhibu sa'im fi ta'jil al-fitr ba'da ghurub ash-shams mubasharatan. On tire de ce hadith l'encouragement des jeûneurs quant au fait de rompre le jeûne rapidement une fois le coucher avéré, une fois le coucher du soleil avéré.
Mahabbatu Allah subhanahu wa ta'ala lil yusri 'ala 'ibadatihi aw 'ala al-'ibada.
Le fait qu'Allah azza wa jalla aime la facilité dans l'adoration pour ses serviteurs. Allah azza wa jalla aime la facilité dans l'adoration pour ses serviteurs.
Certaines personnes, par exemple, dans Salat al-Tarawih, sont fatiguées, épuisées. Elles ne tiennent plus debout. Alors elles délaissent. Alors que tu peux t'asseoir. Alors que tu peux t'asseoir. Na'am, Allah Azza wa Jal aime pour toi la facilité. Si tu t'assois et que tu as plus de khushu et que tu es bien, parce que tu ne tiens plus debout, hada khayr. Ça, c'est un bien. Ça, c'est un bien. Délaisse pas la prière. Assis-toi.
Où la personne pense que tu peux faire salat al-Tarawih qu'avec surat al-Baqar et sab' al-Tiwal.
Tu peux faire salat al-Tarawih avec Qul Huwallahu Ahad. Tu peux faire salat al-Tarawih avec Qul A'udhu bi Rabbil Falaq. Qul A'udhu bi Rabbil Nas. Alam nashrah laka sadrak wal duha. Inna a'tainaka al-Kawthar wal 'Asr.
Prie avec ce qu'Allah t'a facilité. Si tu es mutma'in, tu as du khushu' et ça t'est facile de prier avec Qisar al-Suwar, les sourates courtes du Coran, et on ne dit pas les petites sourates, on dit les courtes sourates, na'am, du Coran, alors il n'y a aucun mal dans cela. Il n'y a aucun mal dans cela. Et si Allah Azza wa Jal t'a facilité plus et tu récites plus longtemps, fa'ala khayrun ala khayr, nurun ala nur. Na'am, mais عليكم بالأعمال ما تطيقون. Faites comme action ce que vous supportez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu comme une corde accrochée à un pilier de la mosquée. Il a dit, qu'est-ce que cela? Alors on lui a dit, c'est la corde de telle femme lorsqu'elle fait qiyamul layl, quand elle en peut plus, elle se tient. Il a dit, enlevez cette corde. Faites ce que vous arrivez à faire. Faites ce que vous arrivez à faire. Et Allah ne se lasse pas tant que vous ne vous lassez pas. Allah ne se lasse pas tant que vous ne vous lassez pas.
Pour certaines personnes, c'est mieux de prier 30 minutes. Parce que c'est comme ça qu'elles ont le plaisir, le délice, le khushu, la concentration, la méditation. Pour d'autres personnes, 1h30. Pour d'autres personnes, 2h. Pourquoi ? Parce qu'elles prennent leur plaisir dans la longueur de la récitation, la méditation, la longueur des rukous et des sujouts. Elles ressentent le fait d'être proche d'Allah Azza wa Jal et que son corps se lave de ses péchés et elle prend du plaisir à implorer Allah Azza wa Jal et à faire monter son besoin chez Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et plus c'est long, plus son cœur déborde de plaisir et d'humiliation et d'humilité. Et plus elle se sent proche d'Allah et plus elle se renforce de par cette adoration. Et pour d'autres, 30 minutes, c'est ce qui remplit ce besoin. Naam, chaque personne fait ce qu'Allah Azza wa Jal lui facilite et ce dans quoi elle trouve de la facilité. Le hadith suivant, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا في رواية وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Hadith عمر بن الخطاب رضي الله radiyallahu anhu, dans lequel il nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand la nuit vient par ici, que le jour s'en va par ici, dans une version, et que le soleil s'est couché, certes le jeûneur mange ou bien a rompu son jeûne. Certes le jeûneur a rompu son jeûne. Non. إذا أقبل الليل أي بان الظلام. Lorsque la nuit vient d'ici, c'est-à-dire que ça devient sombre de manière claire et évidente. Minha huna, c'est-à-dire du mashriq, de l'est, du levant. Naam. Lorsque la nuit vient du levant, de l'est, de l'orient. Wa adbara minha huna, et qu'elle s'en va par ici, c'est-à-dire que sa lumière s'éteint et s'en va par ici, c'est-à-dire du maghrib, de l'ouest du couchant. Wa gharabat ash-shams, et que le soleil se couche, c'est-à-dire le rond, le cercle. Non pas, on parle pas des lumières. Naam, on parle du kurs. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité trois signes. Quel est le premier signe? Hein? Quel est le premier signe? La nuit vient de l'est. Quel est le deuxième signe? Le jour part de l'ouest. Naam. Donc le jour part, la nuit s'installe. Quel est le troisième signe? Le soleil se couche. Le soleil se couche. Un de ces signes entraîne forcément les autres. N'est-ce pas? Hadil alamat baynahuma talazum. Il y a un lien direct entre ces signes. Quand le soleil se couche, la nuit vient. Quand la nuit vient, le jour part. Quand le jour part, la nuit vient. Et ainsi de suite. Alors pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ces trois signes? Parce que les gens, leur situation peut être différente. Celui qui est chez lui dans un bâtiment, où il se trouve dans un wadi, dans une vallée. Donc il y a une montagne ici et il y a une montagne de l'autre côté. Est-ce que lui pourra voir le kurs, le soleil? Non. Par contre, il pourra voir quoi? Le jour partir et la nuit s'installer, n'est-ce pas? Alors lui aura recours à ce signe-là. D'accord? Une personne qui marche et qui voit le soleil, puis arrivée au Maghrib, elle voit le soleil, le kurs se couche. Est-ce qu'elle pourra se baser sur ce signe ou pas? Oui. Mais est-ce qu'il n'y aura pas les deux autres signes en même temps? Si. Mais elle va prendre le soleil et se baser sur cela, ça lui sera suffisant. Donc le prophète m'a donné ce qu'il faut pour tout le monde. Afin que personne ne puisse dire: oui, mais moi je n'ai pas vu le soleil. Tu n'as pas vu le soleil? Il n'y a pas de problème, la religion d'Allah, elle est complète. Le prophète m'a tout transmis. Le prophète n'a rien oublié, car c'est Allah Azza wa Jal qui lui a transmis, qui lui a révélé.
Na'am wa ma kana rabbuka nasiya.
Et ton Seigneur n'est pas sujet à l'oubli.
On voit ici que le serviteur peut se baser pour rompre son jeûne et pour l'entrée du maghrib sur adhan.
Adhan, c'est une idée forte que tu as suite à des signes que tu as vus. Une idée forte que tu as suite à des signes que tu as vus. Est-ce que pour rompre le jeûne, tu dois obligatoirement avoir vu le soleil se coucher sans aucun doute? Non. Tu peux te retrouver dans des situations où tu n'as pas ce signe explicite. Tu pourras te baser sur la forte opinion de la chose. S'il n'y a rien, particulièrement s'il n'y a rien qui vient à l'encontre de cette forte opinion. La preuve de cela, c'est que tu peux voir la pénombre, et en réalité, c'est le soleil qui a été obstrué, la lumière du soleil qui a été obstruée par quelque chose, comme un nuage par exemple. Et cette situation s'est passée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est que les sahaba radiallahu anhum, un jour, ont rompu le jeûne. Plus tard, ils se sont rendus compte, que c'était le soleil qui avait été caché par des nuages ou autres. Alors, ils ont fait une erreur involontaire, n'est-ce pas? Ils ont rompu avant le maghrib. Lorsqu'ils ont informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela, il ne les a pas blâmés. Donc ils se sont basés sur quoi pour rompre le jeûne? Sur Evan. Sur la forte opinion que le soleil s'est couché. On tire de cela que celui qui commet une erreur, alors qu'il s'est basé sur Evan, et qu'il n'y a rien qui vient à l'encontre de ce Evan, son jeûne est valable. Une fois qu'il s'aperçoit qu'il s'est trompé, il s'abstient. Non, il reprend son jeûne et son jeûne est valable, il n'a pas le rattrapé. Et les ulama ont dit que Evan et de deux sortes. Il y a un dhann al-zahir, c'est ce qu'on vient de citer, la forte opinion alors qu'il n'y a rien qui vient à l'encontre. Et il y a un dhann alladhi yu'aridhu shay. Le dhann à l'encontre, il y a quelque chose. D'accord? Par exemple, tu as une montre avec toi, tu as l'heure. Et tu sais l'heure du maghrib. D'accord? Et en plus de cela, tu vois le soleil. Puis tu entends l'adhan, et toi tu vois toujours un bout du soleil. Le dhan, c'est que c'est le maghrib parce que le muadhdhin a fait l'adhan. D'accord? Mais à l'encontre, peut-être que ta montre a un problème. Ça? D'accord, mais est-ce qu'il y a une chose qui... Yu'aridha, est-ce qu'il y a une chose qui vient à l'encontre de ça? Du fait que ce soit réellement le maghrib? Oui ou non? Quelle chose? Il voit encore un bout du soleil. Dans ce cas-là, il rompt son jeûne et il dit, moi je me suis basé sur Advan. C'est valable ça ou pas? Non. Il doit rattraper parce que là, il s'est basé sur une chose, mais il y a une autre chose qui vient à l'encontre. À ce moment-là, il doit se baser sur la vision. D'accord? Il doit se baser sur la vision. Il entend un savant qui lui dit, le Fajr, c'est à 4 heures. D'accord? Et lui, avec ses yeux, il voit qu'à 4 heures, le Subh est entré. Non? À 4 heures, le Subh est entré. Comme j'ai vu, par exemple, moi-même, de mes propres yeux, en scrutant, j'ai pris une photo de cela. Le Fajr est entré, qat'an, sans aucun doute. Il était entré depuis quelques minutes. Il était entré. Est-ce qu'à ce moment-là, j'ai le droit de m'abaser sur la fatwa du shir? Non, le shir, il a parlé à hauteur de sa connaissance. Mais toi, tu as vu un signe bayyin min alamati shara'a. Tu es obligé de suivre l'alama que tu as vu, si tu es connaisseur. Naam. Est-ce que ça veut dire que tu descends la manzila du alim kada? Non. Mais tu suis l'alim qui t'a dit que tu es obligé de suivre al-dalil wa shara'a. Wa al-alama shara'iyya al-wad'iyya. Naam. Un autre exemple, tu es dans un endroit et tu demandes la qibla à quelqu'un. Il te dit c'est par là. Mais toi, tu as connaissance que c'est pas par là. Hein? Tu as connaissance que ça n'est pas par là. Pourquoi? parce que tu sais, le soleil se lève de tel côté et se couche de tel côté. D'accord ? Il se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc, tu sais que si c'est le sobh, tu pries en face. Et si c'est le maghrib, tu pries dos à lui. N'est-ce pas ? C'est ça où je me trompe ? Hakada. Et tu vas pour prier le maghrib. Et lui, il t'a indiqué le contraire. À ce moment-là, tu n'as pas le droit de suivre sa parole. Tu dois te baser sur ta connaissance. Si tu pries dans le sens inverse, ta prière, elle n'est pas valable et tu dois la rattraper, même si c'est lié à X temps. D'accord ? Parce que tu avais la capacité de savoir. Quand tu as celui qui n'a pas la capacité, fattakullah mastata'atum, même s'il s'est trompé, il n'a pas à la rattraper, bien jumla. Donc, il y a des cas où Evan n'est pas pris en considération. Faire attention. Et il ne faut pas avoir de laxisme dans son dîn. Une remarque, Ibn Baz, rahimallah ta'ala, dit pour le maghrib et iftar, tout ça, il dit si c'est une ou deux minutes, yutasamah fi dhalik. Ça, c'est excuser une ou deux minutes. D'accord ? Parce qu'en général, le muadzin, il prend une petite marge. Il y a une mini marge. À la fin du hadith, le prophète nous dit faqad aftara sa'im. Dans ce cas-là, le jeûneur aura rompu son jeûne. Que signifie que le jeûneur aura rompu son jeûne? Que signifie le fait que le jeûneur aura rompu son jeûne? Savons ce qu'est deux paroles ou plus. Premièrement, halalahu ayuftira. Ça veut dire qu'il lui est licite et permis à partir de ce moment de rompre son jeûne. Donc une fois qu'il a la certitude que c'est le maghrib, il a la permission de rompre son jeûne. C'est ça le sens de faqad aftara sa'im. Le rompeur a coupé son jeûne. C'est-à-dire qu'il a la permission de le rompre. La deuxième explication, c'est de dire qu'il a le jugement de celui qui a coupé. Et là, on dit qu'il a coupé son jeûne. Religieusement parlant, il a coupé son jeûne. D'autres ont dit, on lui dit de couper son jeûne à ce moment. Ça veut dire, on lui impose ou bien on lui dit de rompre son jeûne. Voici pour ce hadith. Le hadith suivant, le hadith de Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا إنك تواصل قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. رواه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما rapporte que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner en continu sans rompre, de lier un jour de jeûne avec un autre jour de jeûne sans couper entre les deux. Est-ce que c'est compris? Le wisal, c'est le muas, c'est muas salatu siyam bayna yawmayn bi ghayri ma iftar. Ça c'est le premier, c'est la première sorte de wisal. مواصلة الصائم صومه بين يومين ولا يفطر في الليل. C'est le fait qu'un jeûneur jeûne un jour, puis continue à jeûner un second jour, un autre jour, le jour suivant, sans rompre dans la nuit. Entre le maghrib et le fatih, il ne rompt pas son jeûne. Ça, ça s'appelle comment? Al-wisal. Al-muasala, c'est le fait de faire un lien, établir un lien entre deux choses. Ça, c'est le premier type de wissal. Le deuxième type de wissal, c'est un yuwasila siyam al-siyam ila akhir al-layl thumma yuftiru qabla al-fajr thumma yuwasil siyamahu fi al-yawm al-thani. Le deuxième type de wissal, c'est le fait que la personne jeûne un jour, puis elle ne coupe pas son jeûne au maghrib, mais elle poursuit son jeûne vers, yani dans la nuit encore. Et elle ne mangera qu'à la fin de la nuit, pour entamer encore un jour de jeûne. C'est compris? Donc elle va allonger ses heures de jeûne, mais elle ne va pas lier la nuit au jour sans avoir mangé quelque chose entre les deux. Est-ce que c'est compris? Le premier, il ne mange rien, il ne boit rien, il ne rompt pas son jeûne entre les deux. Le deuxième, il attend la fin de la nuit pour rompre son jeûne. Puis il entame encore un jour, un autre jour de jeûne. Ces deux choses-là sont appelées al-wisal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit al-wisal. Alors as-sahaba lui ont dit, déjà il a interdit le wisal. Pourquoi? Parce que ça affaiblit le corps. ويضعفه عن عزمي عن عزيمتي في التعبد والاكثار من الطاعات وقيام الليل وماذا اعطاء حق الله اعطاء حق نفسي البدن والقيام بحق الاسره و parce que ça l'affaiblit dans le fait de s'acquitter de ses devoirs envers Allah, de faire beaucoup d'adoration, de lire beaucoup le Coran, de prier la nuit, de faire et de faire. Aussi, ça l'affaiblit et il ne va pas donner ses droits à son corps. Ton corps a un droit sur toi. Ton corps a un droit sur toi. Naam. Et ça va t'affaiblir dans le fait de t'acquitter des devoirs envers ta famille. Épouse, femme, enfant, parents, ainsi, proches et ceux qui ont haq sur toi. D'accord? Pour toutes ces raisons et d'autres, on nous a dit de ne pas faire al-wisal. Ensuite, est-ce que le wissal c'est manhi nahy wa nahy li yani yani nahy at-tahrim ou nahy kiraha? Est-ce que c'est une interdiction absolue, c'est-à-dire c'est muharram de faire le wissal, ou bien c'est détestable? Les savants ont divergé. Quant au wissal total un jour après l'autre, ça c'est makruh et d'autres disent c'est muharram. Quant au wissal, de ne pas rompre directement et de continuer, ça c'est permis. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, si vraiment vous voulez le faire, alors jusqu'à la fin de l'année. Alors, jusqu'à la fin de la nuit. Voyez. Si une personne fait le wissal, elle rompt son jeûne avec un produit qu'elle met dans son nez et qui rentre dans sa gorge. Vous savez que parmi les moyens de rompre le jeûne, faire rentrer quelque chose dans le nez, d'accord, qui rentre. C'est pour ça que le prophète m'a dit Baliru filistin shaq illa antakunu sa'iman. Baliru filistin shaq illa antakunu sa'iman. Exagère quand tu fais filistin shaq, tu fais rentrer l'eau dans le nez pour faire le wudu, sauf quand tu es en état de jeûne. Pourquoi? Parce que ça peut couper le jeûne si quelque chose rentre. Et ensuite, ça va dans la gorge, ça coupe le jeûne. D'accord? Contrairement aux gouttes et ainsi de suite. D'accord? Est-ce que, s'il fait ça, il dit c'est bon, j'ai pas fait le wissal. Parce que j'ai rompu mon jeûne avec cette façon. Un autre exemple, il rompt son jeûne en ayant un rapport avec son épouse. Ça s'est permis. Certains parmi les anciens le faisaient. Ils rompent le jeûne avec al-mu'asha. Est-ce que dans ce cas-là, il dit c'est bon, moi j'ai pas fait le wissal parce que j'ai coupé mon jeûne? Et pour ceux qui prennent l'avis que le hijama ça coupe le jeûne, s'il fait le hijama et il dit c'est bon, moi j'ai coupé mon jeûne, j'ai pas fait le wissal. Dans tous ces cas, est-ce qu'il est sorti du wissal ou pas? Man yujib. Hassan indak. Le prophète m'a dit que lui il n'est pas comme eux car il est nourri à breuver. Donc, si quelqu'un dit moi j'ai rompu mon jeûne, mais il mange pas, il boit pas, mais il fait ce qu'on a cité, est-ce que c'est valable? Il est sorti du problème du wissal ou pas? Les ulama ont dit que la sagesse pour laquelle le wissal a été interdit, c'est parce que ça affaiblit le corps, n'est-ce pas? En faisant le hijab, en faisant entrer quelque chose par le nez, en ayant un rapport avec l'épouse, est-ce qu'il a pallié à la sagesse de l'interdiction du wissal? Non. Au contraire. Donc il est toujours dans le wissal. Parce que c'est en mangeant et en buvant qu'il va renforcer
son cas.
Barakallahu fik. Les compagnons, lorsque le prophète sallam leur a dit ça, ont répondu innaka tawasi. Ils ont dit mais toi tu fais le wissal. Cette jumla elle est aliyah. Cette jumla elle veut dire que on a fait le wissal parce que tu es notre exemple. Comme toi tu fais le wissal, on a fait le wissal. Et voici que tu nous dis de ne pas faire le wissal. Et là on voit l'ittiba, le suivi des sahaba du prophète sallam. Ils le voyaient faire quelque chose, ils le faisaient directement. Il ne disait pas, est-ce qu'il y a un khilaf? Est-ce que kada? Non. Ou bien c'est trop dur, ou bien c'est pas la même époque, ou bien kada, non. C'est une sunna, fais-la. Si tu arrives à faire toutes les sunnans, fais-les. Même si la personne en face te dit, oui, mais pour moi c'est difficile, c'est une sunna, fais-le. Sauf si autre chose, c'est meilleur. Non, tu peux faire l'iftar avec rotaba, des dates fraîches, fais-le. Même s'il faut que tu sortes de chez toi, tu vas acheter des dates. Non. Alors que tu as une table de 2 mètres chez toi remplie de khayrat et de barakat. T'as pas de date, le mieux, tu vas acheter des dates. Pour 1 euro, c'est meilleur que la pawila à 100 euros, dont la moitié va aller, où vous savez, Allah musta'an. Sans taftir, sans imin, sans sadaqat. Non. Et ensuite, tu peux plus tenir debout pour faire tarawih. Voyez. Donc ils ont compris que le khayr, tout le khayr était dans son suivi, sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallam s'est justifié et a dit inni lastu mithlakum, je ne suis pas comme vous. Puis il a cité la cause. Il a dit inni ut'amu wa usqa, moi je suis nourri et abreuvé. Par qui? Et si on n'a pas cité le sujet, qui est-il? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, bien évidemment. Celui qui me donne à manger, qui me donne à boire, comme a dit Ibrahim alayhi salam en sourate al-Shu'ara. Que signifie nama ut'amu wa usqa? Que signifie on me nourrit et on m'abreuve? Est-ce que ça veut dire qu'il mange de la nourriture? Non, sinon, ça contredit le siyam. Pourtant, on croit en sa parole, on sait que c'est la vérité. Donc, quelle est l'explication de cela? C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala yu'tihi min quwwati ta'in wa sharib. C'est-à-dire qu'Allah azza wa jalla lui donne la force de l'homme qui mange et qui boit. Allah azza wa jalla lui donne la force de l'homme qui mange et qui boit. فَيَسْتَغْنِي بِذَٰلِكَ بِمَا فِي قَلْبِهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَشِدَّةِ التَّعَلُّقِ بِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالْأُنْسِ بِهِ وَلَذَّةِ مُنَاجَاتِهِ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ. Allah Azza wa Jal lui donne la force de celui qui boit et qui se nourrit à un point tel qu'il se passe de manger et de boire de par ce qu'Allah lui met dans le cœur par l'évocation d'Allah, par le dhikr, par l'adoration, par les prières, la lecture du Coran, par les du'a. Il est tellement dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, tellement dans son évocation, et il a tellement fait scission du lien avec les créatures au point de faire un lien total avec son créateur que son cœur est rempli. Son cœur est tellement rempli de l'amour d'Allah, de l'espoir d'Allah, de ses sens, na'am, que ça lui donne la force, na'am, et il oublie complètement la dunya avec ce qu'il y a comme nourriture et comme manger. Subhanallah. Na'am, wa sallam a tawhid tellement qawi, tellement pur, et son lien avec Allah Azza wa Jalla est tellement solide qu'il en oublie la dunya totalement. Et plus particulièrement pendant Ramadan, parce que le wissal c'est pendant Ramadan. Le wissal c'est dans Ramadan. D'accord? Pourtant, subhanallah, idha ja'a al-ashr, na'am, kan ajtahidu fiha, man ajtahidu fi ghayriha. Et une fois il a fait le wissal, et les compagnons n'ont pas fait le wissal, ils ont fait le wissal pour prendre un exemple. Alors il a fait le wissal, puis le wissal, puis le wissal, puis il y a eu la nouvelle lune. Il a fait ça comme pour les blâmer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, Allah Azza wa Jalla lui a donné une quwwa par la ibadah qu'il avait. Par la ibadah qu'il avait. Et on remarque que certaines personnes, lorsqu'elles mangent peu, elles arrivent mieux à adorer Allah Azza wa Jalla. Elles adorent, elles arrivent à faire plus, peut-être qu'en ayant beaucoup mangé. Et les savants citaient l'histoire de certains parmi les pieux prédécesseurs. Allahu Akbar. L'un d'entre eux s'élève la nuit dans la pénombre. Et il se lève, il prie, il prie, il prie. C'est alors qu'une abeille lui vient. Naam. Elle le pique une fois. Il reste dans sa salade. Puis une deuxième fois. Puis une troisième fois. Puis un nombre de fois incalculable et il n'a pas remarqué. Et lorsqu'on l'informe de cela à la fin de sa salade, il dit vraiment. Il dit, je n'ai pas remarqué, j'étais préoccupé par les paroles de mon Seigneur et son évocation. Et dua. Allahu Akbar. Non. Contrairement à celui qui, lorsqu'il prie, le moindre bruit, la moindre chose, ça le distrait. Non. Subhanallah. L'un d'entre eux, il y a un incendie, il est dans la salade et il remarque pas. L'un d'entre eux se fait mordre par un scorpion, il remarque pas. L'un d'entre eux par une abeille à plusieurs reprises. Non. Et il est plongé dans sa salade. Allahu Akbar. Ça, c'est quand la personne atteint le niveau où la salat, c'est qurratu ayn. Wadu'ilatis sana qurratu ayn. Voilà, salam pour lui, la salat, c'était ça. Son plus grand délice. Et zarihna biha ya bilal. Tranquille, nous en parlons au bilal. Fais l'adhan afin qu'on rentre dans cette salat qui est notre repos. Et Ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, dans le livre El Wabil Sayyib, a cité les gens dans leur salat. Et les différentes catégories. Parmi elles, Allahu Akbar, une catégorie de gens qui, lorsqu'elles entrent en salat, c'est comme s'ils tenaient une braise. Voyez, je dis cela avec les mots, comme s'ils tenaient une braise. Et son seul but, c'est d'en sortir. Il ne trouve pas son repos dans la salat, mais il veut se reposer de la salat. Il s'en décharge. D'accord ? Il a cité 5 catégories. Parmi la catégorie, il dit il y a une catégorie qui fait un combat dans la salat. Un shaitan vient, essaie de le prendre dans la salat et lui se bat avec le shaitan. Des fois c'est lui qui gagne, des fois c'est Shaitan qui gagne. Il y a un autre, il bat Shaitan, mais une part de sa salat, elle part dans ça. Puis il cite la meilleure catégorie. D'accord ? Avant ça, il a cité celle qui ne préserve pas les piliers, ainsi de suite. Puis il a cité la meilleure catégorie. C'est la catégorie de celui qui trouve tout son bonheur et tout son plaisir dans ça, dans la salat. À un point tel, Allahu Akbar, que quand cette salat se finit, il se sent mal et il se dit à quand la prochaine salat ? Allahu Akbar. À quand la prochaine salat? Parce que son bonheur intense, il est quand il se tient debout devant Allah Tabaraka wa Ta'ala, le Seigneur des mondes. Son bonheur intense, c'est quand il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et le Coran. Il sait que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, il médite chaque verset. Et il sait que quand il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit Hamidani Abdi. Et quand il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah dit Athna Ali Abdi. Malik Yawmiddin Majalani Abdi. Non, il vit cela. Il vit cela. Il sait qu'il est proche d'Allah. Il sait que le moment où il est le plus proche d'Allah, c'est quand il est en sujoud. Ça veut dire qu'il aime que l'imam allonge le sujoud. Il demande, il demande, il demande. Et quand l'imam dit Allahu Akbar pour dire Rabbi Ghafirli, il dit Subhanallah, je voulais faire plus. Je me sentais bien. Pourquoi il n'est pas resté encore plus? Parce qu'il a trouvé son bonheur et sa ladda dans cela. Il reconnaît son caractère humilié devant son Seigneur. Il pose ce qu'il y a de plus haut au plus bas pour Allah tabaraka wa ta'ala. Il sait que c'est le serviteur d'Allah et c'est une créature. Et que sans Allah, il ne peut pas lever son front. Sans Allah, il ne peut pas faire un pas, c'est pour ça qu'il s'est prosterné. Sans Allah, il ne peut pas éviter l'enfer, c'est pour ça qu'il se prosterne. Sans Allah, il ne peut pas rentrer au paradis, c'est pour ça qu'il est dans cette salle. C'est pour ça qu'il se lève, c'est pour ça qu'il vient au masjid, c'est pour ça qu'il dépense, c'est pour ça qu'il jeûne, c'est pour ça qu'il fait le hajj wa hakala. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder ces cœurs qui vont nous permettre de comprendre c'est quoi la salat et c'est quoi ce lien avec Allah tabaraka wa ta'ala. Au point, l'imam Malik et d'autres ont dit que lorsque tu dis Allahu Akbar takbiratul ihram, c'est comme si tu avais mis toute la dunya derrière toi. Quand tu lèves les mains, tu dis Allahu Akbar takbiratul ihram. Hein? Quand tu fais takbiratul ihram, c'est comme si tu as mis toute la dunya derrière ton dos et tawbila ala Allah Azza wa Jal. Ces sens-là, pour les avoir, il faut une préparation pour venir à la salat. Il faut une préparation. Alors l'adhan, t'arrêtes tout. Et ce que je vous résume, c'est un dars de Cheikh Abdel Razak qu'il a fait pendant Ramadan. T'arrêtes tout. Et tu te prépares pour cette salat, tel wudu, kaza. Tu sors de chez toi, tu marches, tu fais du'a, adhkar. Tu arrives au masjid, tu fais du'a, ki'at, tu arrives bidikrillah, du'a. Ensuite, après, tu écoutes le adhan, tu répètes le adhan. Ensuite, tu du'a, ensuite, tu te lèves, tu fais rak'atayn ou bien 4. Ensuite, tu du'a, ou bien tu fais le Coran. Ensuite, l'imam vient, il fait ensuite l'iqama. Ensuite, salat. Kaza. C'est comme ça que tu vas connaître le goût de la salat. L'un d'entre eux entre dans salat ou taraweh, qui dure des heures. Et il prie la nuit. Une personne dit, je suis fatigué, je n'en peux plus. Une personne dit, je n'arrive pas à prier la nuit. Et lui, lorsque ses proches du Fajr, il surveille l'heure pour faire le wit. Et lorsqu'il y a l'adhan du Fajr, il est triste comme s'il n'avait pas prié la nuit. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé le goût de l'adoration. Il a trouvé halawatul iman. Allahu Akbar. Il voulait continuer dans cette adoration. Ikhwan al-kiram, hadi ibadat wa ta'at wa ladhat. يعني لا يتلذذ بها إلا من وفقه الله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لذة مناجاته ولذة التعبد ولذة قيام الليل. On demande Allah Azza wa Jal, car nul ne peut atteindre ce niveau si ce n'est avec la réussite qu'Allah accorde. On demande Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde le délice de la foi et de son adoration.
ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك. نحذى أبو هريرة إلي دان ركاية دي الإمام بخاري مسلم pareillement pour le حديث de عائشة et pareillement pour le حديث de أنس بن مالك. ولي مسلم une auteur dit et مسلم rapporte ce qui apparaît c'est qu'en réalité c'est le Bukhari qui l'a rapporté. Non. Et que dans la version, c'est Hatta au lieu de, il a. Quant à l'imam Muslim, il ne l'a pas rapporté selon Abu Sa'id al-Khudri. Wa li muslimin an Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, fa ayyikum arada yuwasila fa liwasil ila sahar. Donc, dans une autre version, comme tu as entendu, elle n'est pas dans lequel l'imam Muslim, mais dans lequel l'imam Bukhari, le Muslim n'a pas rapporté selon Abu Sa'id. Donc, toute personne qui voudra faire al-wisal, qu'il le fasse, mais qu'il continue que jusqu'avant le fajr. Qu'il continue jusqu'au sahar, jusqu'au moment d'avant le fajr. Il y a ici la permission du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire al-wisal jusqu'avant le fajr. Jusqu'avant le fajr. On tire de ce hadith l'interdiction de faire al-wisal de par la lourdeur ou la nuisance que ça peut avoir sur le corps. Le wisal, joindre les jours, sans rompre la nuit. Ensuite, l'interdiction, est-ce qu'elle est détestable ou proscrite totalement? Les savants divergé sur ce. On tire de ce hadith jawaz al-wisal ila sahar, liman ahabba dhalik, wa qawi ala dhalik. La permission de faire al-wisal jusqu'avant le fajr, jusqu'au sahar. Pour celui qui veut le faire. Ça ne lui apporte pas de nuisance. كمال الشريعة الإسلامية بإعطاء النفس حقها المادي والتعبدي. On voit la perfection de la religion musulmane du fait qu'elle a donné à l'âme, son droit, que ce soit le domaine spirituel ou que ce soit yani l'adoration et ainsi de suite, ou que ce soit le droit du corps, la nourriture et ainsi de suite. Celui qui a un besoin, après le maghrib, il a le droit de l'assouvir. Que ce soit la nourriture, la boisson, ses épouses, et un ou autre. L'islam ne vient pas à l'encontre de tes besoins. Mais il te dit de ne pas faire ce qui n'est pas bon pour toi. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله سيف ونسابب. حرص الصحابة على الخير والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. On trouve de ce contenu de ce hadith la motivation qu'avaient les compagnons dans l'acquisition du bien et de la science du prophète صلى الله عليه وسلم et dans le suivi de sa sunna. Ça doit être une qaïda. كون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة وسنة كلها عظيمة. Sois parmi les suiveurs du prophète sallam, parmi ahli sunnah, dans toute petite et dans toute grande chose, et toute sa sunnah est immense. Elle est immense. On tire de ce hadith أن الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوم دليل شرعي على خصوصيته في حكمه.
On tire de ce hadith que là-bas, c'est le fait de prendre l'exemple du prophète sallam dans ce qu'il fait. Tant qu'il n'y a pas de preuve religieuse qui montre que ça, c'est une chose qui est que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'obligation de prier la nuit. Est-ce que c'est obligé de prier la nuit ? Non. Parce qu'il y a une preuve qui montre que c'est mustahab et que c'est la meilleure prière après la prière obligatoire. Savez-vous que la meilleure prière après les cinq prières obligatoires, c'est Qiyamul Layl, c'est la prière de nuit. Et que la prière de nuit commence après l'Isha. Donc si la nuit, tu te lèves 10 minutes, après l'Isha, tu rentres chez toi, tu fermes la porte. Toute la journée, tu es avec les gens. Toute la journée, tu es avec ta femme. Prends quelques minutes entre toi et Allah Azza wa Jal. Tu rentres après l'Isha. Allahu Akbar. T'as le farid de Rabbil Alamin. T'as fait Qiyamul Layl. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Et ensuite, tu retardes un petit peu plus. Et ensuite tu décales Qiyamul Layl au milieu de la nuit. Et ensuite tu décales Qiyamul Layl à la fin de la nuit. Ensuite tu te lèves 10 minutes avant le fajr. Ensuite 20 minutes avant le fajr. Et ensuite tu ne pourras plus supporter de ne pas te lever. Ça sera un remède à cette dunya, ces difficultés, ces tristesses, ces problèmes, ces soucis, ces maladies. Naam. Et la vie du cœur réellement en réel est dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Quant aux choses de dunya dans lesquelles il y a un remède partiel, tu verras que, comme a dit Ibn Atiyah, rahimahullah ta'ala, dans le poème, dunya in sarlat kayo. La dunya, si elle te réjouit un jour, hein, elle te fait du mal beaucoup d'autres jours. Hein, elle te fait du mal beaucoup d'autres jours. Vous voulez des exemples? Par exemple, l'argent. L'argent, ça te fait du bien un jour. Mais beaucoup d'autres jours, il y a le hasad, il y a la jalousie. Hein? Il y a le fait de se retrouver endetté. Il y a le fait de flirter avec les limites du haram. Hein? La nourriture, ça te fait du bien. Et ensuite, tu as mal au ventre. Ça te fait du bien, ensuite tu tombes malade. Ça te fait du bien et ensuite il y a des mauvaises graisses. Ça te fait du bien, ensuite il y a la ceinture abdominale, les abdos qui disparaissent. Et ça te fait du bien, ensuite il y a les maladies, il y a le diabète, il y a le sel, ça te fait du bien. Il y a le goût et ensuite ça ramène des maladies, n'est-ce pas? Le jus et les boissons gazeuses. Naam, les boissons gazeuses. Ça te fait du bien, ça te désaltère en apparence, ainsi de suite, alors que c'est du poison. Naam, tu bois des centaines de sucres par semaine ou par mois. Non. Donc, in sarra kayo, ça te fait du bien un jour, mais combien de jours allais-tu tu'ani? Non. Et vu que certaines personnes me poussent à citer un autre exemple, je vais le citer. La femme. Non. La femme. A'azallah qadar al-muslimat wa aslahahun wa waffaqahun li kulli khayr. Le nouveau marié. Naam, il devient aveugle peut-être de par cet amour. Et le mariage lui redonne la vue. Naam, et le mariage lui redonne la vue. Il devient clairvoyant. Naam. Donc quand il se marie, il pense qu'elle est parfaite. Alors qui sait que lui ne l'est pas? Naam, il pense que ça va être la meilleure, qu'elle va jamais lui causer de tort. Et il lui dit tout ce qu'il lui dit. Naam. Et ensuite il voit un défaut, puis un autre défaut, puis un autre défaut, puis un autre défaut. Naam, dont une partie ne sont que le reflet de ses propres péchés. Ça, c'est muhim jiddan de le savoir. Si tu vois un mal en face, souvent, pas tout le temps, des fois c'est une épreuve, mais si tu as un péché que tu as fait, alors ça se répercute dans ta famille, tes enfants et même ta monture, disaient les plus prédécesseurs. Naam. Donc, jubilat hakala. Naam. Yani un jour ou plusieurs. C'est le bonheur total et plusieurs autres jours, c'est des soucis. Naam, il se gratte la tête, il dit comment je vais régler ce problème. Ou bien il dort pas. Ou bien il a le meilleur des plats, il trouve pas l'appétit. Mais il veut pas montrer. Alors il se force à manger. Naam. Hakada. Wallahi sahal umur. On tire de ce hadith. Jawazul wisal linnabi sallallahu alayhi wa sallam duna ummati. La permission du prophète sallam de faire al-wisal et ses propres à lui.
C'est propre à lui. Sa communauté n'a pas le droit de le faire. Le wissal où tu joins les jours sans rompre entre les deux. Des exemples de particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a dit le wissal. L'exemple de particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains savants ont dit, par rapport au verset surat al-Hazab, turji man tasha, le fait de ne pas avoir répartir également les nuits de ses épouses. Mais il peut avancer, reculer et faire comme il le veut. Parmi ces particularités, tazwij akthar min arba. Le fait qu'il se soit marié, qu'il est décédé alors qu'il avait 9 épouses. Il en a épousé 11. Wallahu alam. Naam. C'est parmi ces particularités. Parmi ces pas, il y a beaucoup d'autres particularités. Le fait qu'il soit bimanzilat al-ab, il a la place du père pour nous. Et c'est le wali des croyants. Et d'autres particularités que les savants ont citées, ils ont écrit des livres à ce sujet. On voit la sagesse de cette législation, du fait qu'elle ne cite un jugement particulier que pour une personne particulière qui a les sens voulus. Par exemple, le prophète, pour lui, il aura le wissal. Parce qu'Allah Azza wa Jalla l'abreuve et le nourrit de par ce qu'il lui donne dans le cœur comme délice de l'adoration. Et ce par quoi il le renforce à travers son évocation et son invocation. On voit la parfaite pédagogie et le noble enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du fait qu'il ait dit aux compagnons, ne faites pas ça, puis il a expliqué la différence entre lui et eux. D'accord? Et ça, c'est une erreur qui nous touche, nous parents et éducateurs. C'est qu'on dit à l'enfant, ne fais pas ça. Fais pas ça, ou fais ça. Mais on ne fait pas suivre cela de parce qu'Allah a dit ça. Parce que le prophète sallam a dit ça. Ibn Uthaymeen a attiré l'attention sur cela. Naam. Il y a des femmes pieuses qui font ce rappel-là à leur époux. Lorsque l'époux dispute l'enfant ou donne un ordre ou un interdit, naam, il est bon qu'elle dise, sans que l'enfant ne l'entende, explique-lui pourquoi ce sera un khair, il va mieux le faire, il va wahaka. Naam. Et à ce moment-là, le mari ne devra pas dire uskuti anti man kalamak. N'est-ce pas? Aywa. Yaqbal al-haq wa yatawadha' ma'a ahli li ahlihi wa li ghayriha. Au contraire, il est humble et il accepte le haq de son épouse et d'autres que elle. Même de l'enfant qui commence à parler. Et parmi les choses qu'un papa de la mosquée, que je rapporte d'un papa de la mosquée, c'est qu'une des causes qu'il a arrêté de fumer la cigarette khabitha, hein, c'est que il a eu un enfant. Et l'enfant, tout petit, quand il le voyait fumer, il disait « Abi, c'est pas bien. Abi, c'est pas bien. Abi, c'est pas bien. Abi, c'est pas bien. » Il a dit « Subhanallah, ça a été la cause que j'ai arrêté à ce qu'il y a. » C'est-à-dire, Subhanallah, c'est venu d'un enfant. 3 ans ou là. Il se peut qu'un enfant vienne avec une bonne chose, une noble chose. Et ça ajoute de la sérénité, de la tranquillité dans l'acceptation du dîn. C'est-à-dire le cœur se tranquillise plus. De toute façon, il va le faire parce que c'est un croyant. Mais ça lui ajoute de la l'itminan, tomanina. Voilà pour ce hadith. On a fini ce chapitre. Le chapitre suivant, Babu Fadli Siyami wa Ghayri. Le chapitre suivant, c'est le chapitre du mérite, du Mada, le mérite, ou plutôt Afwan, Babu Afdali Siyami wa Ghayri. Le chapitre suivant est le meilleur des jeunes et autres. Le meilleur des jeunes et autres. Ensuite, il y a Bab Laylat al-Qadr. Et ensuite, Bab al-I'tikaf. Et ce kitab, Naam, s'arrête. Le kitab de Siyam s'arrête. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous faciliter à avancer dans cela. Et vendredi, Inch'Allah Ta'ala, Naam, si on finit pas la kulli hal le livre, on finira dans une autre occasion. Et vendredi, Inch'Allah Ta'ala, on va étudier Ahkam, Zakat al-Fitr, wal-Eid. On étudiera, Inch'Allah, les règles. De, Zakat al-Fitr et de tout ce qui est relatif au dernier moment du mois de Ramadan et au premier moment du mois de Shawwal. Wa billahi at-tawfiq. Wallahu a'lam wa sallallahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نتواصل بتقوى الله والجد والاجتهاد في هذه الأيام الأخيرة والليالي المباركة. Songeons mutuellement la crainte d'Allah et le fait de faire des efforts dans ces dernières nuits, dans ces derniers moments du mois de Ramadan, et on ne sait pas si ça va revenir. On demande à Allah de nous aider, on fait dua, istighfar, tilawat al-Qur'an, tasbih, tahmid, tahlil, sujoud, kathrat al-sujoud, beaucoup de prières, journée, la nuit, husn al-khuluq, iftar al-sa'imin. Naam, sadaqat. Naam, on dépense pour la mosquée. Les sadaqat, en cachette. Tu donnes sans que on te voit, seul Allah te voit. Ou bien tu donnes, on te voit pour que les gens te prennent comme exemple. Naam, tu dépenses de tes biens. Et Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Et qu'Allah azza wa jalla accepte cela de toi. Tu cherches les gens qui sont dans le besoin, qui sont pauvres. Tu cherches des gens qui sont madha, qui ont des besoins, que ce soit un orphelin, que ce soit une femme qui est seule avec ses enfants, même si elle n'est pas orpheline, divorcée. Tu cherches des pauvres, d'accord? Tout cela pour avoir la récompense chère Allah. Pas pour qu'on dise toi, t'es un homme généreux qui donne. Tout cela dans les derniers moments du mois de Ramadan. Et celui qui fait ça, qu'il s'attende à tout le bien. Pourquoi? Parce que celui qui fait un khair, Allah Azza wa Jalla va l'aider pour faire le bien même après Ramadan. Parmi les signes que tu as fait un bon siyam de Ramadan, c'est que après Ramadan, Allah va t'aider à continuer ce bien. Tu cherchais des pauvres, maintenant tu en connais, tu pourras plus facilement faire sadaqat. Ça, c'est parmi les sagesses de Zakat al-Fitr en nourriture. Et c'est interdit de donner en argent, ça passe pas, parce que le Prophète a ordonné, comme le hadith d'Abdullah ibn Omar, sahih, et ta'am, nourriture. Donc nous, on fait comme le Prophète a dit. Donc on se conseille de faire beaucoup d'efforts inshallah dans ce dernier moment et beaucoup d'istighfar, beaucoup d'istighfar. Wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana Allahumma ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ayn. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. إنك أنت الغفور الرحيم. وتب علينا وتب علينا وتب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا أنت الشكور. اللهم تقبل منا قيامنا. اللهم تقبل منا صدقاتنا. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. إنك أنت أرحم الراحمين الشكور الرحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. والله أعلم. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله تعالى وصلاة العيد. On attend les informations. Et vendredi, inshallah ta'ala, on la transmettra. Et probablement que ce sera dans la mosquée et en face, c'est-à-dire dans le gymnase. Il y aura une partie pour nos mères et sœurs et filles, et une autre partie pour nos pères et frères et fils. Jazakallahu khairan, barakallahu khairan.